VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
13h en temps universel, bonsoir, bienvenue. On commence par la Côte d'Ivoire. Le procès de 9 policiers ivoiriens, dont 2 piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusés de nombreuses exactions, s'ouvre demain jeudi à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la justice militaire Jacques Aristide.
Ce sont les commandants Jean-Noël Abéi et Anselme Sekayapo, dit Sekaseka, et 7 autres officiers qui doivent comparaître en cours demain, d'après le procureur militaire Ange Kessy. Le procès, ouvert au public, se tiendra au sein de l'état-major de l'armée à Abidjan Plateau pour des raisons de sécurité. 7 des officiers sont accusés de violation de consignes, tandis que le commandant Abéi est poursuivi pour désertion à l'étranger et complot. Ancien chef de l'escadron blindé d'Agban, le plus grand camp de gendarmerie du pays, Jean-Noël Abéi avait pris la fuite après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. L'officier est considéré par ses détracteurs et des ONG internationales comme l'un des principaux responsables d'exactions sous le régime Gbagbo, notamment durant la crise. Quant au commandant Anselme Sekayapo, il est accusé d'assassinat, meurtre, blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes, recrutement de mercenaires et entretien de milices. Les accusés risquent entre 3 ans et la prison à vie, selon le parquet militaire.
Crise au Mali, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, et sa branche malienne ont condamné hier l'exécution sommaire de 6 civils, dont un humanitaire, le 21 mai après la reprise d'une localité du nord du pays par les forces pro-gouvernementales. Les précisions, Jacques Aristide.
Dans un communiqué, la FIDH et l'Association malienne des droits de l'homme, la MDH, affirment avoir pu confirmer les exécutions sommaires à Tinhama après des affrontements opposant la coordination des mouvements de l'Azawad aux forces armées maliennes et au groupe d'autodéfense Touareg pro-gouvernemental. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, y avait envoyé le 22 mai une équipe d'enquête après avoir été alertée au sujet de violations graves des droits de l'homme. L'AFP rappelle que le gouvernement malien avait rejeté toute implication évoquant des règlements de comptes sanglants entre des éléments de groupes armés locaux. La FIDH et la MDH affirment que certaines de ces exécutions constitueraient des crimes de guerre dont les auteurs devraient être poursuivis par la justice malienne et, le cas échéant, la Cour pénale internationale.
La guerre contre Boko Haram. Le président nigérien Muhammadu Buhari en visite officielle aujourd'hui au Niger. Son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Son homologue nigérian Mahamadou Issoufou a annoncé hier à Paris la mise en place d'une force multinationale destinée à combattre le groupe islamiste dans les prochaines semaines. Des troupes du Niger, du Tchad, du Cameroun aident déjà le Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram. Au Niger, fermeture du plus grand centre de traitement de la méningite suite à une baisse de l'épidémie, ce qui a fait 479 morts depuis le mois de janvier. Claire Morin-Jibou.
Le ministre nigérien de la Santé, Manoah Gali, a assuré que l'épidémie de méningite, qui avait particulièrement touché Niamey, est en train de se résorber. Le plus grand centre de traitement des malades, basé à Lazaret, un quartier à la périphérie nord de la capitale, a donc été fermé hier. Lazaret est considéré comme l'épicentre de l'épidémie. 4786 cas et 243 décès ont été enregistrés à Niamey depuis janvier. Le ministre a précisé qu'un autre site sera opérationnel pour accueillir d'éventuels malades. Une pénurie de vaccins avait contribué à la propagation de cette maladie. Toutefois, les autorités restent vigilantes. Le Niger fait partie de la ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie.
Il est 13h04 en temps universel au Burundi. Les manifestations continuent à Bujumbura contre un troisième mandat pour le président Nkurunziza. Les élections législatives et communales sont prévues en principe ce vendredi, mais les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est ont demandé un report d'au moins 6 semaines de ces scrutins. Est-ce encore possible? La réponse de Prosper Nta-Orwaiminié. Il est le chargé de communication de la CENI, la commission électorale burundaise. Il est au micro d'Idriss.
VOA Afrique en direct de Washington.
D'abord, ce n'est pas la CENI qui va faire le report puisque l'acte de confirmation de cette décision relève des compétences du président de la République. Nous, au niveau de la CENI, nous avons fait des propositions compte tenu de la déclaration des chefs d'État de la sous-région de l'EAC. Nous attendons la décision définitive de la part de l'autorité compétente.
Et vous avez fait quelles propositions?
Les propositions sont des propositions, ça ne se dit pas, on attend la décision.
Est-ce que techniquement la CENI peut organiser des élections d'ici vendredi?
Non, on attend la décision puisqu'il y a une recommandation des chefs d'État de la sous-région et qui visiblement va être tenu en considération. Nous attendons d'un moment à l'autre la décision de l'autorité compétente.
Prosper Ntawormiye, le chargé de communication de la CENI à Bujumbura. Deux policiers ont été tués par balle ce mercredi près des célèbres pyramides de Gizeh en Égypte. Ces événements surviennent alors que des groupes djihadistes multiplient les attentats contre les forces de l'ordre en Égypte. Selon la police, les assaillants armés sur une moto ont ouvert le feu sur les deux policiers chargés de la sécurité du site touristique de Gizeh, non loin du Sphinx et des célèbres pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos situées à la périphérie du Caire. Un policier est décédé sur le champ, tandis qu'un deuxième a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Ossam Abdel Ghaffa, qui a précisé que l'attaque s'était produite à l'aube à l'extérieur du site des pyramides. En Syrie, au moins 24 personnes, dont 8 enfants, ont été tuées par des barils d'explosifs largués aujourd'hui par des hélicoptères de l'armée dans le nord du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette ONG basée à Londres a indiqué que les raids ont visé les provinces d'Alep et Idlib. Le bilan pourrait s'alourdir, selon l'Observatoire, en raison d'un grand nombre de personnes grièvement blessées. La guerre contre le groupe État islamique, Anthony Blinken, un haut responsable du département d'État américain qui vient de participer à la conférence de Paris sur la lutte contre les djihadistes, a évalué aujourd'hui à plus de 10 000 le nombre de militants de l'État islamique tués depuis le début de la campagne aérienne de la coalition menée par les États-Unis contre le groupe extrémiste. M. Blinken qualifie ces bombardements en association avec la formation et l'équipement de forces locales sur le terrain de stratégie gagnante en dépit de quelques revers. Mais le premier ministre irakien Haider al-Abadi estime, lui, que les forces pro-gouvernementales irakiennes ne reçoivent pas suffisamment d'aide de la part de la coalition. Les autorités ukrainiennes ont accusé les rebelles pro-russes de l'Est d'avoir déclenché une attaque ce mercredi, malgré la trêve en vigueur sur leur position près de la localité de Marinka, à l'aide de lance-roquettes multiples Grad et de chars. Kiev et l'Occident reprochent au Kremlin de soutenir et d'armer les séparatistes pro-russes, ce que Moscou nie catégoriquement. Un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur le 15 février après la signature des accords de paix de Minsk 2, mais il reste très fragile et des combats se poursuivent dans plusieurs zones de l'Est rebelle. Hier mardi, une réunion à Minsk destinée à faire avancer les accords de paix a été reportée à une date ultérieure, Kiev accusant la Russie d'avoir sapé les pourparlers. Il est 9h08 à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Voilà, on termine avec du sport et le scandale à la FIFA. Joseph Blatter, le président de la FIFA, fait l'objet d'une enquête de la justice américaine dans le cadre de l'affaire de corruption qui secoue l'instance mondiale du football. C'est ce qu'ont révélé hier des médias américains, quelques heures après l'annonce surprise par Blatter de sa démission de la présidence de la FIFA. Le président de la FIFA, qui vient d'être réélu à un cinquième mandat, a reconnu hier qu'il n'avait plus le soutien total du monde du football. Il dit vouloir restructurer l'instance suprême du football mondial avant de céder la place à son successeur. L'élection du prochain président de la FIFA devrait avoir lieu entre décembre 2015 et mars 2016. La plupart des sponsors des activités de la FIFA se félicitent de la décision de Sepp Blatter de démissionner. C'est un geste positif qui est dans l'intérêt du football et de ses fans, a déclaré un porte-parole de Coca-Cola. Et puis toujours en Afrique, le ministre sud-africain des sports, Fikile Mbalula, a défendu aujourd'hui la légalité des 10 millions de dollars versés au football de la Caraïbe que la justice américaine soupçonne d'être un pot de vin offert par Pretoria en échange de votes favorables à l'attribution de l'organisation du mondial de foot 2010 à l'Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau bulletin sur VOA Afrique. Restez en notre compagnie.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.